Bonjour à toutes et à tous, ici l'œil de Chéri. Avant de plonger dans votre épisode, voici un petit moment de publicité. Et oui, ça y est, le podcast devient tellement influent qu'on nous demande de faire de la publicité. Mais ça tombe bien car c'est sur notre compositeur préféré. Alors je vais vous parler d'un événement pas comme les autres. Il s'agit de Beethoven Wars. Du 23 au 26 mai, la scène musicale accueillera ce spectacle immersif imaginé par la chef d'orchestre Laurence Equilbet et l'auteur-réalisateur Antonin Baudry. Imaginez un space opéra immersif ou un film d'animation inspiré de la science-fiction et de l'univers manga qui se marie harmonieusement avec les œuvres moins connues de Beethoven. C'est ce que vous promet Beethoven Wars. Pour en savoir plus sur cet événement unique et captivant, rendez-vous sur le lien en description de cet épisode. Ne manquez pas cette opportunité de vivre une expérience fantastique. On lance l'épisode et peut-être on se retrouvera du 23 au 26 mai à la scène musicale.
Écoutez, je reçois des informations maintenant, écoutez.
Le feuilleton va recommencer pour quelques épisodes, capitaine.
Nous ne sommes pas des robots, Sébastien, mais des êtres vivants.
Voilà le pied d'Armstrong, au centre et en bas de votre écran. Et il marche maintenant.
On peut dire aujourd'hui que la science-fiction est bel et bien partout.
Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique.
Est-ce vraiment si invraisemblable?
Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chéri. On a décidé de vous faire frissonner aujourd'hui avec un épisode sur le film Alien 3 de David Fincher. Après la séquence Dune, puis après la séquence sur l'homme des jeux, place à un bon vieux space horror des familles. Je le répète souvent, mais n'hésitez pas à partager et à commenter notre podcast si l'épisode vous a plu. Allez, on passe maintenant la bande-annonce française qui date de 1992. On remonte le temps et on vous explique tout sur Alien 3.
Dans un monde où les rayons du soleil sont froids, où le vent est glacial, une femme est arrivée. Mais elle n'est pas venue seule.
Ça commence.
L'angoisse est de retour.
Et nous n'avons aucune arme pour la détruire.
La peur est de retour.
Ne te retourne pas, Scotto ! Cours aussi vite que tu peux !
Et par-dessus tout, la bête est de retour. Alien 3.
Nico Pratt, bonjour à vous.
Hello, comment ça va?
Bah ça va bien, on est très heureux de vous retrouver Nico.
C'est gentil.
Vous êtes journaliste, vous avez produit plusieurs essais, vous êtes déjà venu sur le podcast pour
c'est
Mad
vrai,
Max.
Ouais.
C'était un petit moment, donc
c'est un plaisir.
On est vraiment content de vous voir. Ça tombe bien, vous venez de sortir un petit livre chez Rokirama. Il était une fois Alien 3, ça fait 100 pages, ça coûte 9,90€ et c'est extrêmement complet sur les coulisses de ce troisième opus. Nico, je vais vous apprendre un truc, c'est la première fois qu'on parle d'Alien dans le podcast.
Mais non.
Ouais,
dans C'est plus que de la SF,
ouais,
c'est vrai.
C'est
n'importe
vrai.
Quel Alien.
Ouais, première fois.
Et bah, je suis ravi d'inaugurer.
Bah justement, ça tombe bien, on va pouvoir en discuter. Pourquoi vous aimez Alien 3, Nico Pratt? On va commencer déjà avec la question un peu dure parce que c'est pourtant un des films les moins aimés de la franchise.
Alors clairement, c'est l'un des moins aimés de la franchise. Très clairement, je pense que le Alien de Jean-Pierre Jeunet est celui qui est le moins aimé, mais juste à côté de lui, il y a le Alien 3 de David Fincher. Alors pourquoi j'aime ce film? Déjà, il y a quelque chose contre lequel je ne peux pas lutter, c'est que c'est le premier Alien que j'ai vu. Voilà, j'avais 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça, j'étais trop jeune, j'étais chez un pote, la VHS traînait, je l'ai vu, je connaissais pas le 1, je connaissais pas le 2, j'ai donc nécessairement pas tout compris, mais voilà, n'importe quel alien, pour un gamin de 9 ans, c'est des images évidemment qui restent. Ensuite, pourquoi je l'aime? Parce que... Peut-être aussi parce que les gens ne l'aiment pas. Il y a un petit esprit de contradiction là-dedans. Mais ça marche avec beaucoup de choses. En général, quand vraiment la majorité déteste un film, il se trouve que j'ai envie de l'aimer. Et puis, non, la vraie raison, c'est que je trouve que c'est un film... c'est un drôle de film. C'est un film pas toujours bien compris. C'est un film... en tout cas, c'est un film dans lequel il y a beaucoup de morts, mais beaucoup de vie aussi. Voilà, c'est un film où, mine de rien, contrairement au premier de Ridley Scott et contrairement au deuxième de James Cameron, j'ai l'impression... non seulement qu'il y a encore des choses à dire, mais qu'il y a encore des choses à voir. C'est aussi lié, on aura l'occasion d'en parler, à son statut un petit peu hybride. C'est un film qui appartient à personne. C'est un film qui n'a jamais vraiment été totalement terminé, finalement. Mais voilà, j'aime ce film parce qu'il continue d'attiser ma curiosité, en vrai.
Est-ce qu'on peut dire que ce long métrage peut être considéré un peu comme le Dune de David Lynch ? Ça veut dire un grand film raté, finalement.
Oui, sans aucun doute. Oui, sans aucun doute. Et d'ailleurs... les raisons que je viens d'exposer pour lesquelles j'aime Alien 3 sont les mêmes pour lesquelles j'aime le Dune, finalement, de David Lynch. Grand film raté, oui. Alors, évidemment, je ne vais pas essayer de faire croire aux auditeurs, aux auditrices qu'Alien 3, en fait, est une immense réussite éclatante. À tout point de vue, je serais même... tenter de rejoindre voilà, la masse qui dit que c'est un fiasco. En revanche, exactement comme pour Dune de David Lynch, voilà, je trouve que voilà, la lumière, elle se cache dans les fissures. Et c'est ce que j'aime dans Alien 3, c'est que même dans les échecs, même dans les défauts, il y a quelque chose qui me passionne et il y a toujours quelque chose, pas forcément quelque chose de réussi, mais quelque chose qui aurait pu l'être.
On va un peu remonter le temps. Aliens sort au cinéma, il est réalisé par James Cameron, c'est un succès. James Cameron, on va dire, fait évoluer la franchise dans quelque chose de différent que le film précédent de Ridley Scott. Qu'est-ce qui se passe alors dans la tête des producteurs ? Parce que les producteurs sont quand même partie prenante dans votre essai.
Alors, c'est un film de producteur, mine de rien. Alien 3, pour le meilleur et souvent pour le pire. Dans la tête des producteurs, il se passe quelque chose de très simple. Donc, quand on dit les producteurs, on parle de plusieurs personnes. On parle d'abord de la Fox qui chapeaute tout ça, mais surtout de Brandywine Productions, qui sont les détenteurs des droits d'Alien. Voilà. Et rien ne se fait sans la Fox, mais rien ne se fait également sans Brandywine. Il se passe deux choses à la sortie du Alien de James Cameron, qui n'a pas non plus été une promenade de santé d'ailleurs. C'est un carton. Donc, très vite, décision est prise, de façon même plutôt officielle, de boucler la trilogie. Mais très vite, personne ne sait comment faire. C'est-à-dire que le premier film de Ridley Scott, à tout point de vue, c'est un coup de chance aussi, puisque c'est la naissance d'une saga, ce qui n'était pas gagné d'avance. C'est un immense succès, ce qui n'était pas gagné d'avance. Mais surtout, c'est un film avec très peu de personnages, où... pour tout un tas de raisons, entre autres économiques, on voit assez peu le monstre. C'est un film qui joue vraiment sur le huis clos et sur l'ambiance. James Cameron, lui, il met des soldats, des flingues, un casting avec vraiment beaucoup plus de protagonistes, beaucoup plus de monstres, évidemment. Et donc, c'est le contre-pied total à tout point de vue du film de Ridley Scott. Et en fait, ce qui se passe, c'est que une fois qu'on a fait un film et qu'on a fait son exact opposé, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas forcément surenchérir, on ne va pas forcément revenir à quelque chose de plus, je mets des guillemets, intimiste, comme le Ridley Scott, parce que ce serait quelque part faire machine arrière. Donc en fait, très très vite, décision est prise de boucler la trilogie, éventuellement avec deux nouveaux films, qui seraient tournés coup sur coup, mais surtout très vite, en fait, ils se rendent compte qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ils ne savent pas vraiment où aller. Et en plus, à ce moment-là, ils ne savent pas où aller, mais surtout, ils ne savent pas avec qui. Ils aimeraient que Ridley Scott revienne, il a autre chose à faire. Ils aimeraient que Sigourney Weaver revienne, elle a autre chose à faire. Donc voilà, se crée un climat de doute qui va quand même durer, j'ai envie de dire, jusqu'à la sortie d'Alien 3.
Est-ce que vous en parlez, c'est pour ça que je voulais vous questionner dessus. Mm-hmm. Est-ce que c'est un slasher de l'espace ? Alien 3, enfin pas Alien 3, mais Alien, la franchise, est-ce qu'on peut présenter ça comme un espèce de slasher de l'espace ?
La franchise Alien, globalement, est un slasher de l'espace. J'ai envie de dire que ça s'applique. Alors, le terme on le doit à David Fincher lui-même, qui a déclaré qu'il voulait faire un slasher dans l'espace. Il y a quand même ça également chez Ridley Scott. Quand on dit slasher, on pense à un boogeyman qui avance qui zigouille ses victimes une à une, avec une final girl, donc une survivante à la fin, et on pense aussi éventuellement à un boogeyman, voilà, dans un schéma très réduit, c'est-à-dire une petite ville ou éventuellement un vaisseau, qui avance lentement, mais qui froidement, mécaniquement, assassine toutes ses victimes. Il y a moins ça chez Cameron, il n'y a pas du tout ça chez Jeunet, parce que Jean-Pierre Jeunet, lui, il a clairement fait une comédie. En revanche, il y a ça chez Ridley Scott, et David Fincher, il n'a jamais caché son admiration pour le premier Alien tout particulièrement, et surtout pour Ridley Scott. Donc oui, on peut dire qu'Alien 3 et le premier Alien sont des slashers dans l'espace. Ouais.
On va ponctuer notre podcast d'extraits pendant la discussion que je vais vous demander de commenter, bon, des extraits d'Alien 3. Et on va débuter avec l'ouverture du film.
Spaces interrupted. Fire in cryogenic.
Alors voilà, c'était l'ouverture du film qui, on a l'impression d'être dans un clip, on a l'impression de voir
ça va très vite, ouais.
Succession de plans où le Alien attaque finalement, donc on suit les survivants de, du Aliens, et un Alien, un facehugger attaque un des survivants. Comment vous analysez, vous, cette ouverture qui est quand même, on a l'impression d'être dans du Hitchcock en termes de montage, tellement c'est du montage cut.
J'aime beaucoup cette ouverture parce que, en fait, tout ce qu'on aime ou éventuellement ce qu'on déteste, et parfois les deux en même temps, sont contenus justement dans cette intro. Déjà, il y a dans cette introduction, l'une des particularités d'Alien 3, c'est qu'on ne sait pas d'où viennent les idées, et parfois elles se contredisent elles-mêmes, et il y a énormément d'incohérences parce que le script était écrit en temps réel, parce qu'il y avait des décisions sans aucun sens qui étaient prises. Et là, typiquement, on se retrouve avec une créature dans le vaisseau qui attaque donc les survivants et qui crée un incendie et qui crée l'évacuation de Ripley et la mort de Newt et de X. Très concrètement, cette bestiole n'a pas beaucoup de sens qu'elle soit là. Enfin voilà, d'ailleurs j'en parle dans le bouquin. Qu'est-ce qui s'est passé qu'on n'a pas vu dans le précédent? Enfin voilà, on peut tourner ça dans tous les sens. Admettons éventuellement, c'est de la suspension d'incrédulité. Disons que ça marche. Mais si on s'interroge un peu, clairement, ça ne marche pas. Ensuite, on parlait de slasher dans l'espace. Alors là, direct, on y est. C'est-à-dire que deux des personnages les plus adorés de la saga, même si bon, on ne les a vus que dans le précédent, mais c'est le lieutenant X et la petite Newt qui a été sauvée dans le film de James Cameron, on les égouille. Mais on les égouille, c'est pas une belle mort, c'est une mort qui peut paraître évitable, c'est une mort qui paraît qui est froide. Ils ont pas une ligne de dialogue, on ne leur laisse aucune chance. Moi j'adore, moi je trouve que pour aller de l'avant, il fallait peut-être faire ça. Évidemment que ça a enragé les fans, et d'ailleurs Michael Biehn, l'interprète de X, lui-même, il en parle beaucoup dans les différents making-of. Il était furieux, il était très mécontent et... Il a d'ailleurs dit que voilà, il aurait peut-être moins fait chier la prod s'il avait su ce qu'allait devenir David Fincher dans l'espoir de éventuellement bosser avec lui. Et pour terminer, il y a quand même et pareil, on en parlait, on se demandait voilà où pouvait aller la franchise à partir de là. Bah direct, on sent qu'on va vers quelque chose de plus nihiliste presque. Pour moi, le Alien 3, c'est un Alien de son époque, c'est un Alien grunge quelque part. Et finalement, en niant la possibilité d'une vie normale, d'une vie de famille pour Ellen Ripley, puisque c'est vers ça que se dirigeait la fin du film de Cameron, bah, je trouve que Fincher fait exactement le film qu'il devait faire, quelque part.
Est-ce que vous pouvez nous parler de William Gibson? Alors, on le connaît bien, c'est un grand auteur de science-fiction, c'est lui qui a inventé le genre du cyberpunk avec le Neuromancien. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de son scénario? Il y a eu beaucoup de scénarios, il y a eu beaucoup de versions de scénarios différentes de ce Alien. Qu'est-ce qu'elle avait pourquoi elle était sympa? Enfin, elle a été redécouverte, cette version de scénario, oui. Elle est appréciée
exactement.
Par les fans, elle est même ressortie en bouquin. Elle avait quoi de particulière, cette version?
Alors déjà, il faut savoir une chose, puisqu'on va en parler dans ce podcast, il y a beaucoup de scénaristes qui se sont succédés, beaucoup d'idées qui donc n'ont pas été retenues, et beaucoup d'idées qui sont restées, mais pas toujours officiellement. C'est-à-dire que certains revendiquent des idées, tandis que d'autres disent « Non, non, c'est moi qui l'ai eu quelques années plus tard », sans forcément que les deux aient raison ou que les deux aient tort. Y a certaines choses qui restent au fil du temps, qui flottent dans l'air. Et donc, on ne sait pas forcément à qui appartient quoi. En revanche, en effet, dans le cas de William Gibson, quelque chose a survécu, donc le scénario a survécu. Et lui, il avait déjà l'idée d'expérience, quelque chose qu'on retrouvera principalement chez Jeunet et chez Ridley Scott avec Prometheus et Covenant. Lui partait là-dessus, mais il partait vers un scénario beaucoup plus SF. Pas du tout slasher dans l'espace. Il partait vers quelque chose de très ambitieux. Déjà, très SF, vers quelque chose sans Sigourney Weaver, puisqu'à ce moment-là, elle n'en fait pas partie, et surtout vers quelque chose... Alors, il y a ce truc chez les fans, souvent, ou quand on n'aime pas le film, mais qu'on lit un scénario qui a été rejeté, on se dit toujours, c'est ça qui aurait dû être le film, ça aurait été génial. Et en effet, un Alien sous la plume de William Gibson, ça en fait rêver beaucoup, mais de ce que j'ai lu, et en tout cas, et également des retours des producteurs, c'était pas un scénariste. William Gibson, il écrivait ce qui lui passait par la tête, mais il écrivait tout un tas d'idées, pas forcément applicables. Et donc, ce qu'il en résulte, pour résumer, c'est un grand foutoir. Moi, je trouve, personnellement.
Vous allez passer du temps à raconter la version d'Eric Reed,
Eric Reed, ouais.
Ouais, qui est une excellente version, qui se rapproche d'ailleurs d'un alien proche des comics. Mais dans cette version, c'est génial, puisque les aliens arrivent sur Terre à la fin.
Exactement. Alors ça c'est un vieux fantasme et c'est un fantasme qui pour l'heure reste inassouvi, puisque le seul moment où on voit, on va dire, réellement la Terre dans le futur, c'est dans une scène coupée à la toute fin du Alien Résurrection de Jean-Pierre Jeunet. Mais bien évidemment qu'il y a ce fantasme de voir des aliens parcourir les rues et s'attaquer aux humains. Alors certes, on le voit dans la suite d'Alien vs Predator. Il va de soi que je ne considère pas forcément ce film comme digne d'intérêt. Mais en effet, Eric Red est le premier donc à imaginer un ultime acte qui ramènerait les aliens sur Terre. Et en fait, c'est comme beaucoup d'idées qui restent et qui partent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les scénaristes se sont succédés, mais les réalisateurs aussi. Et en fait, quasiment à chaque fois qu'un nouveau réalisateur arrivait, le scénariste qui était sur l'affaire partait, le réalisateur désignait un nouveau scénariste, mais le scénario ne fonctionnant... Enfin, voilà. Ainsi de suite et quasiment jusqu'au produit fini. Donc malheureusement l'idée n'est pas restée. Mais il y a toujours des petites choses qui flottent. Par exemple, William Gibson, l'une des rares choses qui est restée, c'est l'idée des tatouages en code-barre, par exemple. Voilà, il y a toujours des petits trucs qui restent. Et c'est l'une des choses qui me fascine dans Alien 3, c'est ce côté un peu hybride. C'est un film qui appartient à tout le monde et donc au final qui appartient à personne.
D'ailleurs, pour les auditeurs qui souhaiteraient savoir de quel alien je parle, c'est un alien qui est disponible chez Weta, l'éditeur qui a produit pas mal de livres et de comics aliens. Et c'est un épisode écrit par Mark V. Erdane, voilà, si je ne me trompe pas, qui avait été écrit avant la production du film. Et qui imagine une séquence sur Terre.
Et d'ailleurs, les fans le savent, mais le grand public ne le sait pas forcément, il y a une bibliographie assez incroyable autour d'Alien. Il y a énormément de romanciers qui ont imaginé des histoires plus ou moins loufoques, avec plus ou moins de personnages de la saga, parfois Harry Play, parfois pas du tout. Mais il y en a qui sont quand même assez incroyables, comme, je ne me souviens plus du titre, mais... celle où un compositeur veut, pour sa grande œuvre, le cri parfait, le cri de terreur parfait. Je ne me souviens plus exactement comment les aliens arrivent dans l'histoire, mais voilà, il y a pas mal de choses loufoques que je vous encourage à lire.
Arrive ensuite Vincent Ward, et ouais, le scénario d'Alien 3 va ressembler finalement à ce qu'il, ouais, a, à ce qu'il a produit.
Alors, Alien 3 n'est pas le film de Vincent Ward, mais l'histoire d'Alien 3 est clairement celle de Vincent Ward. Vincent Ward, c'est celui de tous les réalisateurs qui ont été envisagés, comme Rennie Harlin par exemple. Vincent Ward reste celui qui, à part David Fincher, est allé le plus loin. Vincent Ward, c'est un réalisateur qui avait totalement le profil, pour le coup, c'est un réalisateur néo-zélandais qui avait, alors le titre du film m'échappe, mais au moment où il a été choisi par la production, il avait présenté un film qui avait eu son petit succès à Cannes, et il était pas encore connu du grand public, mais il avait fait preuve de suffisamment de talent, exactement le profil de Ridley Scott, exactement le profil de James Cameron. Donc sur le papier, tout était là pour réussir, et Vincent Ward, il est arrivé avec voilà, ce concept de prison dans l'espace, il est arrivé avec cette idée, alors c'était pas des prisonniers, c'était un monastère à la base, c'était des moines dans l'espace. Il avait imaginé... Bon, comme tout le reste, il avait imaginé des trucs un peu loufoques. Sa structure était en bois, par exemple, quelque chose qui a fait enrager David Fincher. Bon, après, on est dans Alien, une structure en bois peut flotter dans l'espace. C'est pas le truc qui me choquait le plus à la rigueur. Mais Vincent Ward est allé très très loin. Vincent Ward est allé en fait jusqu'au casting, tout simplement. Et puis Vincent Ward a senti le vent tourner. Exactement comme d'autres avant lui, exactement comme Rennie Harlin, et en fait il a bien vu qu'il n'arriverait pas à réaliser son film, et il a été peut-être un petit peu moins tête brûlée et peut-être un petit peu moins fan d'Alien que David Fincher, mais il a fait face exactement aux mêmes difficultés. David Fincher est juste allé jusqu'au bout et le regrette aujourd'hui, mais voilà, encore une fois, je parlais du fantasme des films qui auraient pu l'être, et c'est vrai que le scénario de Vincent Ward et celui de William Gibson font régulièrement partie de classements comme les meilleurs films de science-fiction qui n'ont jamais été faits. C'est quelque chose qui arrive pour toutes les sagas. Enfin, je sais qu'avec le dernier Star Wars par Colin Trevorrow, comme le dernier Star Wars de J.J. Abrams, ça a particulièrement déplu. Quand le script de Colin Trevorrow est apparu sur le web, tout le monde a dit « Ah, mais c'est ça que ça aurait dû être, ça aurait été un super film ». Non, ça aurait dû être réalisé par Colin Trevorrow, donc il y a quand même peu de chance. Mais voilà, en effet, il y avait les bases d'une bonne histoire et d'un bon film, mais sans aucun doute que Vincent Ward aurait fait face aux mêmes difficultés, quoi.
Alors, ça fait plusieurs années que ça dure, hein, qu'il y a des scénarios, qu'il y a des essais, qu'il y a des ratés. Ouais. Vous expliquez bien, hein, d'ailleurs, que ça va durer plusieurs années, ouais, que les millions de dollars vont s'écouler. Et puis, heureusement, arrive un jeune garçon nommé David Fincher. Mm-hmm. Il a 27 ans quand il entre sur ce projet. Ouais. Il n'est déjà pas n'importe qui, David Fincher. Non. Ça, les gens, et vous allez nous expliquer, il fait partie d'un groupe, d'un collectif,
ouais,
qui est déjà multimillionnaire comme groupe et collectif, qui réalise des clips. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce David Fincher quand il entre sur le projet à 27 ans?
Alors, David Fincher, il a fait ses armes, entre autres sur Star Wars, par exemple. C'est un cinéphile qui connaît la technique, qui connaît déjà la réalisation. Enfin voilà, quand il arrive sur Alien, il a déjà fait pas mal de trucs. Et surtout, le groupe dont vous parlez, c'est Propaganda Film. Propaganda Film qui produit des publicités, des clips également. Et c'est un collectif, on peut parler de collectif, dans lequel on retrouve par exemple, Dominique Senna et Michael Bay. Voilà, pour citer les noms les plus connus. Et David Fincher est l'une des tête d'affiche de ce collectif.
Il est même un des cofondateurs.
Voilà, un des cofondateurs, exactement. Je me permets une petite pub pour les copains. Il y a un très bon essai sur Propaganda qui est paru chez Playlist Society. Voilà
avec qui on avait fait toute la série Mad
Exactement,
Max.
Exactement, c'est pour ça que je me permets. Donc, David Fincher, c'est pas n'importe qui, mais c'est pas n'importe qui dans le domaine du clip et dans le domaine de la pub. Le livre s'ouvre là-dessus, justement. C'est sa pub pour le fœtus qui fume. C'était une publicité, je mets des guillemets à publicité, mais un advertisement, comme disent les anglo-saxons, contre le cancer du fœtus. Et en fait, c'était tout simplement un fœtus qui s'allumait une clope. C'est une publicité très, très, très connue qui a fait énormément parler, qui a énormément choqué. Et c'est tout le talent à la fois pour la mise en scène et pour les images choc de David Fincher, résumé en quelques secondes. Donc Fincher, en effet, il vient pas de nulle part.
Ça tombe bien, on va regarder un nouvel extrait de cet Alien. C'est la scène culte, je pense, du film. En tout cas, c'est le plan, un des plans cultes du film que beaucoup de gens retiennent de cet Alien.
Ah!
Dans le film, Ellen Ripley se retrouve sur une planète tenue par des prisonniers. Mm-hmm. Elle va être retrouvée seule survivante. Et puis, elle n'est pas venue seule. Il y a un alien bien qui sûr. Est passé par un Rottweiler pour arriver... Voilà, pour
ce... Ou une vache. Ça dépend vache. De quelle version, quelle ça, version on regarde. Ouais.
Ça, dépend la... ça dépend de la version. Et donc, c'est cette fameuse séquence où, dans l'infirmerie, mm-hmm. le fameux alien se colle au visage de Ripley. Et il va dérouler sa langue assassine, exactement. Meurtrière. Et c'est ce plan qu'on retient finalement de cet Alien 3.
C'est le money shot, tout simplement. C'est vraiment... oui, c'est le plan iconique. Je pense que voilà, tous les films de la saga, en tout cas de la trilogie Alien, le 1, le 2 et le 3, ont un plan de ce genre. C'est un plan... C'est pas un plan qui est gratuit, parce qu'on comprend par la suite que Ellen Ripley... Attention, je vais spoiler, mais bon. Logiquement, vous l'avez vu, on apprend que Ellen Ripley est enceinte, je mets des guillemets au mot enceinte, d'un alien. Et donc, c'est pour ça que la créature l'épargne. Mais c'est vrai que, mine de rien, c'est quelque chose... Il y a une forme d'intimité dans cette scène qu'on avait entre la créature et le personnage qu'on suit quand même depuis trois films, qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Et alors que David Fincher, dans Alien 3... resserre l'espace, c'est-à-dire moins de créatures, moins de personnages, en tout cas moins de personnages centraux, et revient vraiment au personnage de Ripley, là où dans le film de James Cameron, elle coexistait finalement énormément avec Newt et avec X. Voilà, je trouve qu'il aurait été dommage de se priver de ce genre de contact très froid, très proche. Et en plus, alors il y a ce money shot absolument incroyable, mais qui intervient après, voilà, pile au moment où, justement, de nouveau, Ellen Ripley allait croire à une vie normale et à l'amour avec le médecin. Bon, bah voilà, slasher dans l'espace, encore une fois. Donc, ça zigouille, le sang coule et voilà.
Et puis, ça aussi, il y a une forme de tension sexuelle entre l'alien et elle. Et c'est aussi la première fois où il y a cette espèce d'érotisation assumée entre l'alien et entre Ripley.
Exactement. Quelque chose, pour le coup, qu'on retrouvera énormément chez Jean-Pierre Jeunet. Parce que je déteste pas du tout le film de Jean-Pierre Jeunet. Mais en effet, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'avait pas été exploré chez Scott et n'avait pas été exploré chez Cameron. Chez Cameron, c'est, bon, bah, c'est badass, hein, ça zigouille. Et chez Ridley Scott, on était vraiment dans la peur pure et dans l'incompréhension. Il eût été dommage, en effet, au troisième film, de pas finalement creuser cette relation. Et elle le dit, d'ailleurs, à moi, elle dit, en fait, t'es dans ma vie depuis tellement longtemps que je me souviens pas de ce que c'était avant. C'est presque une déclaration d'amour. Bon, évidemment que j'extrapole, hein, c'est pas dit comme ça dans le film. Mais y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Une forme de... un côté un petit peu fusionnel. Et en effet, on s'en rend pas compte à ce moment-là, mais fusionnel au sens propre, puisque... Elle porte l'un de ses bébés dans son ventre.
Racontez-nous un peu le tournage que vous décrivez dans votre essai, qui est très très compliqué.
Alors, je ne saurais même pas par où commencer. Il s'est passé à peu près, en fait, finalement, quelque part, il s'est passé vraiment le guide de tout ce qui peut mal se passer sur un tournage hollywoodien. Déjà, partir en tournage avec un scénario qui ne satisfait personne. Scénario qui n'est clairement pas en état d'être tourné, des lignes de dialogue qui manquent, des scènes d'action pas forcément claires, mais surtout un scénario qui plaît ni à la Fox, ni à Brandywine, ni à Fincher, mais, et ça c'est un immense classique, il y a une date de sortie à maintenir, à un moment il faut y aller, et beaucoup d'argent a déjà été dépensé. Donc ça c'est la première chose, forcément ça va pas être serein. Ensuite, il y a David Fincher, forte tête face à la Fox, et méga studio, hein, forte tête, face à Brandywine Productions, forte tête. Tout le monde est persuadé de savoir quelle est la bonne chose à faire. Alors qu'en fait, la bonne chose à faire serait justement de laisser une seule personne décider finalement et d'aller au bout de sa vision. Ajouter à cela une forme, alors ça, tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus, et d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens, d'acteurs, je veux dire, ou de techniciens, qui ont témoigné au lendemain de la sortie et qui reviennent un petit peu sur leurs propos 20 ans plus tard, la nostalgie et le temps ayant fait leur œuvre. Fincher n'a pas toujours été très cordial, n'a pas toujours été très logique, et Fincher a été, mine de rien, déjà peut-être un petit peu David Fincher, en tout cas celui qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, vous ajoutez à cela des blessures, parce que certaines explosions étaient mal gérées. Vous ajoutez à ça voilà, des...
Dépassements de budget.
Évidemment, dépassements de budget. Voilà, un réalisateur qui claque la porte alors que le montage n'est pas terminé. Vous ajoutez à cela un créateur originel qui n'est pas rappelé pour bosser sur la créature et qui donc le prend mal et se répand dans la presse. Vous ajoutez à cela la presse, justement, la presse qui... Enfin, voilà, il y a des articles et des journalistes qui étaient sur le tournage et qui racontent ce qu'ils ont eu, qui disent « Wow, 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 okay, concrètement, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, absolument tout ce qui pouvait mal se passer, finalement, c'est mal passé. C'est pas forcément le seul film dans ce cas-là, mais c'est un film, finalement, qui s'en est pas totalement relevé.
Comment vous expliquez que David Fincher ait réussi à avoir une carrière après ce film-là, qui quand même, je pense, a dû être une sacrée déception, même si le film fonctionne, vous le rappelez très bien, le film a marché.
C'est un carton, Alien 3.
C'est,
ouais.
C'est un carton, mais pas assez, entre guillemets, pour les gens. Comment vous expliquez que la carrière de Fincher, quand même, malgré tout, malgré ce départ compliqué, il réussit quand même à faire Seven juste après, quoi.
Alors, il y a plusieurs choses à ça. Déjà, c'est un succès financier. C'est-à-dire que... évidemment que un ou deux échecs d'affilée peuvent vous griller à Hollywood. Si c'est un premier film et qu'en plus c'est le premier flop d'une saga adorée et que c'est un flop qui doit conclure une trilogie, en effet, vous, si c'est un bide, vous vous en relevez pas. Là, pour le coup, c'est pas du tout un bide. Et les critiques, finalement, n'étaient pas forcément tendres à la sortie, mais c'était pas non plus... voilà, il n'a pas été cloué au pilori. Certains journalistes ont aimé. Certains fans, sans aucun doute. Enfin, voilà, on n'est pas... Je tenais justement à le rappeler dans le bouquin. On n'est pas non plus sur un fiasco critique et sur un fiasco public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que mine de rien, aucun réalisateur n'est plus fort que la créature. C'est-à-dire que la créature a survécu à Fincher, elle a survécu à Genet, elle a survécu à Alien vs Predator.
1 et 2, d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'il y a ?
1 et 2.
1 et 2, exactement. Elle a survécu, alors moi c'est un film que j'adore, mais deux films que j'adore même. Elle a survécu à Prometheus et Covenant, deux films qui pour le coup sont pas non plus adorés vraiment de tous les fans de la saga. Donc pour le coup, je pense que la créature est... Voilà, plus forte que ce qu'en font les réalisateurs. Et elle est même, d'ailleurs, on l'a vu, hein, plus forte que Sigourney Weaver. Enfin, voilà, le xénomorphe est le plus important. Et ensuite, deux autres raisons à cela. Fincher, déjà, il a renié le film très, très tôt. Vraiment très, très tôt. Ce qui lui a permis aussi de voilà, un petit peu de se démarquer. Certains diront de se défausser, mais en tout cas de se démarquer de cet échec, on l'a dit, tout relatif. Et puis mine de rien, bah, Seven, quoi. C'est-à-dire que Seven et Brad Pitt. C'est-à-dire que Seven, idée géniale, concept incroyable, allié à la vision de Fincher et surtout, à un Brad Pitt désireux à ce moment-là de casser son image, qui se lance dans le projet avec tout son star power tout juste naissant, mais star power quand même. Et voilà, la combinaison des trois faisait que, bon, Seven aurait pu être un échec, mais qu'il y avait quand même tout pour réussir. Finalement, je pense que là où peut-être on parlerait moins ou peut-être pas de Fincher aujourd'hui, c'est si derrière Alien 3, il y avait eu The Game. J'adore The Game, mais voilà, je pense qu'il fallait qu'il y ait un Seven derrière pour en effet pouvoir s'en relever et pouvoir poursuivre.
Elle est comment la créature du film ? Comment vous l'analysez cette alien? Tous les aliens sont différents. Il y a chaque fois, on va dire, il y a le premier où l'alien est basique. Voilà, on découvre. Dans le deuxième, on a une reine avec des centaines voire des milliers d'aliens à la fin. Enfin bon, donc quelque chose de grouillant. Comment vous analysez cette alien qui est un espèce de métamorphe entre guillemets, puisque il est entre le chien, il est entre l'alien, ouais. il est étrange cette alien.
Il est étrange parce que, bon, bah, en effet, on voit un alien qui sort, là d'un chien ou là d'un bœuf, selon la version qu'on regarde, ce qui lui donne des nouvelles particularités. Et ça, pour moi, ça a toujours été un petit peu un... Alors, c'est une nécessité qu'on peut comprendre, mais toujours un petit peu un défaut de la saga, c'est qu'à chaque film, il fallait lui trouver un nouveau truc que le xénomorphe savait faire, qu'on n'avait pas vu avant. Ce qui, en soi... voilà, manque un petit peu de logique. C'est-à-dire que bon, bah, s'il peut marcher au plafond, pourquoi on l'a pas vu le faire avant ? Enfin voilà, c'est... Pour moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu dommage. Je trouve que le monstre se suffit, en tout cas l'apparence du monstre, suffit à faire naître la peur. C'est aussi dans Alien 3 un alien pas toujours très bien branlé, on peut le dire. Il y a quelques effets spéciaux, il y a assez peu d'effets spéciaux, mais c'est le premier film de la trilogie où il y en a quelques effets un petit peu malheureux, parce que pas forcément bien pensés, pas forcément même tout simplement terminés. Et puis, encore une fois, c'est aussi un alien qui témoigne de beaucoup de décisions, de beaucoup de contresens. C'est un alien, on l'a dit, c'est un alien de slasher, donc qui zigouille à tout va. C'est un alien d'un côté qu'on voit énormément et ensuite qu'on voit plus du tout. On sent que même au montage, le réalisateur ne savait pas forcément jusqu'où il voulait aller dans ce qu'il montrait du alien. C'est quelque chose d'assez particulier, c'est en effet quelque chose d'assez peu identifiable. En effet, dans le premier Ridley Scott, il était tout simplement terrifiant. Dans le deuxième, il était immense. Dans le quatrième, bon, il est hybride, on peut dire ça comme ça. Et dans le troisième, bah, il est à la fois tout ça et à la fois rien de tout cela. Ça, on peut dire que ne serait-ce que dans le design de la créature et dans ses intentions, toute la complexité de la création d'Alien 3 tient là-dedans.
On va passer à une autre scène culte du film, cette fois-ci en français. C'est le fameux speech de la fonderie.
Est-ce que tu nous demandes, bordel ? C'est du suicide !
Ouais. Non, parce que la compagnie ne la tuera pas. Vous, ils vous tueront peut-être pour l'avoir vue. Mais elle, ils la sauveront.
Ça veut rien dire, ça ! C'est de la pure connerie ! Ils peuvent pas nous tuer, nous !
La première fois qu'ils ont appris son existence, c'est cette chose qui a primé sur l'équipage. La fois suivante, ils ont envoyé les Marines, et ils y sont restés eux aussi. Vous pensez qu'ils se soucient de condamnés à perpète qui ont trouvé la foi au fond du cul de l'espace ? Vous pensez vraiment qu'ils vous laisseraient compromettre les beaux projets qu'ils ont manigancés ? À leurs yeux, on est de la merde. Ils se moquent bien de savoir qu'un seul de vos copains y a laissé sa carcasse. Ils s'en foutent.
Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire ?
C'est la fonderie de plomb, ici. La seule solution, c'est d'attirer cette fiotte pourrie dans le bac. Et puis de la noyer dans le plomb fondu.
Allez, d'accord. Et comment on s'y prend ?
Ouais. Et qu'est-ce qu'on invente comme appât ?
Oh, merde !
Vous êtes tous condamnés. Alors le problème, c'est de savoir comment vous allez y passer. Debout, sur vos deux pieds. Ou à genoux, comme des bêteux. À supplier. Moi, j'aime pas supplier. Jamais personne m'a fait de cadeau. Alors je l'emmerde, cette saleté. Faut se battre.
Oui, merde. On y va tous.
Voilà, c'est une des séquences évidemment cultes du film. Y a quand même des choses géniales dans ce film. Un alien que j'ai découvert sur le tard, c'est celui que j'ai vu le plus tard possible. Mm-hmm. Je l'ai vu pendant le confinement. Donc vous imaginez, j'avais la trentaine, quoi. J'avais déjà 30 ans, je ne l'avais jamais vu. Et je trouve que l'esthétique du film est quand même géniale. Mm-hmm. Tout le travail sur les prisonniers. Enfin, on se rappelle de ce film par son esthétique.
Ouais.
Et par son ambiance qui quand même est absolument très fincherienne. Enfin, la musique,
bien sûr,
pour
bien
moi
sûr.
C'est la musique, enfin, on reconnaît que c'est du Fincher déjà par la musique. Sans même voir les plans, on écoute la musique, on se dit c'est du Fincher. Et en même temps, cette séquence est super parce qu'on a des espèces de voyous horribles, donc des prisonniers qui sont une espèce entre les prisonniers et les moines, quoi. Mm-hmm. Et c'est le moment où finalement ils rayonnent tous parce que il y a une forme de même eux peuvent voir la lumière, en fait. Ils peuvent décider d'affronter leur fin, quoi.
Exactement. Bah après, on est concrètement dans une convention très hollywoodienne, c'est-à-dire le grand speech, la musique de plus en plus forte qui se veut de plus en plus conquérante, et en même temps je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que on est chez Fincher. La musique d'Eliott Golden Soul, que j'ai eu la avec qui j'ai eu la chance d'ailleurs de discuter pour ce bouquin, elle est... C'est pas quelque chose de très mélodieux, c'est pas quelque chose de très conquérant, et pourtant ça accompagne un moment de rébellion et un moment de communion entre tous ces prisonniers, genre ok, on va lutter contre la créature, et pourtant cette musique elle est pas agréable, elle donne pas vraiment envie, pas forcément envie d'aller au combat. Il y a toujours, c'est déjà en effet complètement Fincher de faire ça, c'est-à-dire que il succombe jamais à la facilité, ils succombent évidemment pas du tout au happy end, mais voilà, ils se plient, mais qu'à moitié, aux conventions hollywoodiennes qui veulent donc un grand discours de motivation.
Comment vous analysez le personnage de Ripley joué par Sigourney Weaver dans le film ? En quoi elle est différente dans cet Alien 3 ?
Elle est brisée. Déjà, alors certes, elle l'était au début du 2 avec certaines scènes quand même assez poignantes, ou particulièrement dans une scène coupée où elle apprend que sa fille est décédée après qu'elle ait passé des années dans l'espace. Mais là, finalement, elle est brisée. On lui fait de nouveau toucher du doigt le bonheur. Elle n'y a plus accès. Et en fait, il y a quelque chose de jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que j'ai l'impression... Enfin, c'est vraiment le premier film de la saga où elle n'a aucune raison de vouloir finalement terminer le film vivante. Il y a quelque chose de jusqu'au boutiste. Et je le disais tout à l'heure, de nihiliste. Enfin, voilà, c'est le alien de l'ère grunge. Et il y a quelque chose de... je me déteste et je veux mourir, comme le chantait, pour le coup, Kurt Cobain. C'est-à-dire que, il y a quelque chose de... Bon, en fait, finalement, la seule façon d'en finir, c'est que je crève également. Et ça me va et j'ai hâte. Et évidemment que certains fans ont eu du mal à apprécier ça. Évidemment que c'est surprenant, surtout après le final plutôt lumineux, c'est un bien grand mot, mais en tout cas qui instaurait de l'espoir dans le précédent. Là, on est vraiment sur une Ripley plus que jamais déterminée à se battre, mais à se battre jusqu'à sa fin également.
Ouais, alors il y a la séquence évidemment finale du film, ouais, où... elle se sacrifie dans la lave. La mort de Ripley, est-ce que c'était la suite logique, finalement, pour vous ? C'était quelque chose que voulait David Fincher. En tout cas, c'était très clair, oui, qu'il voulait la mort du personnage.
Il a dit qu'il faisait le film pour cette scène, en gros.
C'est ça. Et Sigourney Weaver aussi.
Ouais, exactement.
Ce que vous dites aussi dans votre essai, c'est qu'il y a quand même une bonne entente entre les deux. Et elle, on va dire qu'elle soutient son réalisateur.
Exactement. Elle est l'une des rares, d'ailleurs, à le faire. Et c'est la raison pour laquelle David Fincher reste finalement en poste jusqu'au bout. C'est que Sigourney Weaver, elle a toujours dit, voilà, j'ai vu quelque chose en David Fincher, j'aime ses idées, j'aime son talent. Étrangement, ils n'ont jamais retravaillé ensemble. Mais voilà, elle a toujours soutenu David Fincher pendant tout le tournage. Elle a soutenu toutes ses idées, comme se raser le crâne, enfin, voilà. Ça, pour le coup, la star du film et la star de la saga l'a soutenu. Et donc, elle soutenait cette idée que Ripley devait mourir à la fin. Ce qui était à la fois une bonne façon de terminer l'histoire de Ripley, et puis bon, bah, les sagas fonctionnent globalement par trilogie. La plupart du temps, on en fait rarement quatre. Ce qui rend la décision de revenir quelques années plus tard chez Jeunet un petit peu étonnante, on va pas se mentir. Mais voilà, je trouve, pour répondre à la question, où est-ce qu'on... Alors, à ce moment-là, le 4, en effet, n'était pas dans les tuyaux. Et le 4 fait revenir l'alien et Ripley de la façon la plus, la plus comique et la plus SF possible, c'est-à-dire du clonage des siècles plus tard. Bon, c'est quelque chose d'un peu loufoque. Étrangement, Jean-Pierre Jeunet n'a eu aucun souci avec la prod à imposer toutes ses idées, alors qu'elles me paraissent infiniment plus dingues et bizarres et sujettes à controverse que celles de Fincher. Mais bon, bref. Non, à ce moment-là, oui. Pour que ça se termine, il faut en effet que Ripley crève. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Fincher, il dit, mais jusqu'à quel point on va croire qu'elle peut, dans l'immensité de l'espace, en permanence, retomber sur ces bestioles ? Elle a une très bonne raison de le faire au début du 2. passer le troisième volet, il n'y a pas vraiment de logique à ça, finalement.
D'ailleurs, c'est une décision qui ne plaira pas forcément aux deux autres réalisateurs. Ridley Scott a été par contre grand seigneur. D'ailleurs, vous l'écrivez. Fincher raconte le moment où Ridley Scott vient sur le tournage avec un cigare aux lèvres. Ils discutent. Et puis, quand même, Fincher lui confesse que c'est dur. Et Ridley Scott l'encourage en lui disant mais c'est toujours dur, c'est toujours horrible en fait, donc t'inquiète pas. Par contre, James Cameron sera un peu moins sympa en déglinguant totalement le film de Fincher, enfin en étant assez sévère sur le Alien 3.
Oui, alors Cameron est un peu revenu là-dessus, c'est-à-dire que Cameron aujourd'hui il dit il devait faire son film, il avait le droit de faire absolument ce qu'il voulait et il devait faire ce qu'il avait en tête. En revanche, et il a raison, lui Cameron, il avait créé des personnages comme X, comme Newt, il avait imaginé un arc pour Ripley, c'est-à-dire qu'enfin elle allait bénéficier de la vie de famille qui lui avait toujours été refusée. Oui, il a le droit d'être vexé qu'on tue ses héros. Surtout, il faut voir la façon dont ils sont tués. Hein, on l'a dit, sans un mot, zigouillé dès le générique du début. Voilà. Donc, oui, Cameron n'a pas toujours été tendre. Ce qui peut se comprendre, encore une fois, je pense que Fincher avait raison de faire ça. Et pendant quelques mois, était en projet un Alien 5 réalisé par Neil Blomkamp de District 9 qui aurait ignoré les éléments du 3 et du 4. Bon, autant j'étais quand même évidemment très curieux de voir ça, autant je pense que ça a été une erreur.
Que dit le film sur la religion ? Parce qu'il y a quand même une dimension assez religieuse dans ce film. Y a des personnages qui ont l'air d'être des prêtres, finalement.
Ouais.
Y a quand même un côté assez christique.
Bien sûr.
Ripley se sacrifie.
Bien sûr.
Et entre guillemets, on est dans un monde de pêcheurs. Tout le monde est pêcheur ici, donc elle se sacrifie aussi pour l'humanité. Il y a un côté, moi je trouve qu'il y a une dimension assez religieuse qu'on peut un peu retrouver dans le cinéma de Fincher, un peu ce côté... un peu culpabilisant judéo-chrétien.
Oui, bien sûr. Oui, qu'on retrouve par exemple dans Millennium, enfin évidemment dans beaucoup d'autres. Seven, hein, les sept péchés capitaux, enfin voilà. Oui, il y a ça. Alors, il y a ça dans le Alien de Fincher. Encore une fois, on parlait de la valse un petit peu des scénaristes. C'est vrai que c'est davantage quelque chose qui était présent chez Vincent Ward. Vincent Ward, pour lui, dans sa version, en tout cas dans ce qui aurait dû être son film, c'était un monastère dans l'espace, alors que là, on est sur des prisonniers, des anciens criminels, et pour le coup particulièrement monstrueux, qui ont trouvé plus ou moins la paix dans la religion. Et en effet, c'est un film qui est traversé d'images christiques, c'est-à-dire que quand Ripley se jette dans la lave, c'est très clairement le Christ sur sa croix. Il y a des sermons pour motiver les troupes. Il y a cette idée que cette créature est le diable. D'ailleurs, certaines de ces apparitions, certains personnages qui sont prêts à succomber disent qu'ils ont, voilà, très clairement qu'ils ont vu le diable. Et puis, il y a ce côté... ce côté un petit peu... ils vivent dans le dénuement le plus total, tels des prêtres ou tels des moines, ce qu'ils étaient à la base. Ils vivent dans le dénuement le plus total et... Ils vont en payer le prix. Et en effet, il y a quelque chose du registre du bien et du mal, et du mal qui se manifeste sur Terre, et où les païens, finalement, trouvent refuge dans la religion ou non, quoi.
Et puis ils sont rattrapés aussi par leurs péchés, puisqu'ils sont punis à la fin, comme c'est tous des criminels, par la créature.
Ce qui est vrai, mais en même temps, et c'est là aussi que voilà, Fincher, il n'essaye pas de nous dire ce qui est bien et ce qui est mal, justement, la frontière est un petit peu plus floue, c'est que Ripley aurait dû, sur le papier, n'a rien fait de mal et décède, et finalement, il y a bien le seul survivant, c'est finalement un meurtrier comme un autre, c'est pas sur lui qu'on aurait parié, donc voilà, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'aléatoire complet, quoi.
Il y a plusieurs versions du film.
Ouais.
Il y a maintenant une version director's cut.
Ouais. Alors attention, pas director's cut justement, hein, assembly cut.
Assembly cut.
Voilà.
On va être précis. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle version qui est un peu la version que j'ai l'impression qui est vendue maintenant en Blu-ray, non ?
Ouais. Alors. C'est assez intéressant parce que justement, alors, il y a un director's cut de Aliens, il y a des director's cut de la saga, mais on parle d'assembly cut dans le cas de d'Alien 3 parce qu'en fait, Fincher, il n'a pas travaillé là-dessus. Il n'y a pas la version de Fincher d'Alien 3. n'est ni celle qui est sortie en salle, ni celle qui est sortie pour le coffret édition spéciale au début des années 2000. Il y a quelques différences majeures dans la version. Parfois l'alien vient du chien, parfois il vient de la vache. C'est vraiment pour parler des différences majeures. Dans la scène finale, parfois l'alien sort du ventre de Ripley avant qu'elle finisse dans la lave, parfois pas. Il y a plein de différences. Moi, j'ai pas forcément de version préférée. Et pour en revenir à la toute première question de cet entretien, c'est aussi l'une des choses qui me fascine quand on parle d'Alien 3, c'est que personne parle forcément du même film. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les souvenirs d'Alien 3 sont parfois appartiennent à la première version, parfois appartiennent à la deuxième, et que finalement, même dans l'esprit des gens, Alien 3 est un film qui n'existe pas totalement. C'est-à-dire que Alien 3, c'est un film de Vincent Ward, mais c'est un film de William Gibson, c'est aussi un film de David Fincher, et en même temps, jamais totalement. Et quand on parle d'Alien 3, j'ai l'impression qu'on parle davantage presque d'une ambiance, de quelques scènes choc, mais jamais vraiment d'un film complet. Et c'est un film finalement qui appartient à personne. C'est ça qui est, c'est l'une des choses qui me fascine énormément.
Et bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Nico Pratt, d'être venu sur le
podcast. Merci beaucoup, c'était un bonheur.
Je le rappelle, on peut trouver votre essai. Il était une fois Alien 3. C'est chez Rokirama. Ça fait 100 pages. Ça coûte 9,90 €. On recommande cette lecture qui est bien. On a bien stabiloté un peu votre, votre essai. Hein. On a pris des petites notes.
C'est fait pour.
Un essai court, passionnant. Si vous voulez revoir Alien 3, si on vous a donné envie de revoir Alien 3, évidemment. Évidemment, la franchise est disponible en DVD Blu-ray, 4K également. Et puis, sur les plateformes, c'est Disney+, comme c'est la Fox.
C'est vrai.
On peut voir le film dans, je pense, sa dernière version, Assembly Cut,
absolument.
C'est ça. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir. Et puis, on souhaite à nos auditeurs bon courage s'ils veulent revoir Alien 3. Et on se retrouve de toute façon très bientôt dans C'est plus que de la SF.